Pour l'heure, il est 18h. Et c'est l'heure du journal présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. La SNCF entre en grève demain, grève perlée prévue jusqu'à la fin juin. Le mouvement s'annonce massif au moins cette semaine car de nombreux cadres seront grévistes. Nous ferons le point avec Hakim Kasmi. Avec le politologue Jérôme Sainte-Marie, nous verrons que pour l'instant toutes les conditions ne sont pas réunies pour faire plier le gouvernement. La France et Andorre collaborent pour traquer les trafiquants de cigarettes. Les deux pays mettent en place des patrouilles communes dans les Pyrénées. Les explications de Tara Schlegel dans ce journal. Un calme précaire aujourd'hui entre Palestiniens et Israéliens sur la frontière de la bande de Gaza. Vendredi, l'armée israélienne avait tué 17 manifestants. Le reportage de notre correspondant Étienne Monin. La mort de Winnie Mandela en Afrique du Sud. L'ex-femme de Nelson Mandela était une icône controversée de la lutte contre l'apartheid. Noé Hochet-Baudin nous appellera de Johannesburg. Le dossier de ce journal consacré aux fermes de Bitcoin en Islande. L'Islande, un pays où l'on trouve des milliers d'ordinateurs qui fabriquent au même endroit de la crypto-monnaie. Dossier signé Jérémy Richard. La grève à la SNCF débute officiellement ce soir à 19h, mais c'est demain matin que les choses sérieuses commenceront en termes de perturbations. Un TGV sur 8 en circulation, 13% d'intercité, un TER sur 5 et 28% des Transiliens en région parisienne. Le mouvement continuera mercredi et reprendra dimanche. Cette grève perlée à raison de 2 ou 3 jours par semaine doit s'achever le 28 juin. Les syndicats réclament le retrait de la réforme de la SNCF qui prévoit notamment la fin du statut de cheminot pour les nouvelles recrues. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
La direction de la SNCF annonce 48% de grévistes, jusqu'à 77% chez les conducteurs. Une grève massive qui s'explique par une forte mobilisation des cadres.
Oui, cela s'explique bien par le fait que près de la moitié des employés de la SNCF sont des cadres. Mais aussi parce que ces dernières années, les cols blancs ont perdu de nombreux avantages qui ont eu des répercussions directes sur leur fiche de paye, comme par exemple la fin des heures de nuit, lorsque les cadres évaluent les conducteurs. C'est dire si la réforme inquiète au sein de l'entreprise pour les inciter à travailler et à limiter l'impact social sur les usagers. La direction leur propose même une prime de 150 euros pour remplacer les conducteurs grévistes à partir de demain, ce que dénoncent les syndicats qui parlent d'une véritable provocation.
Hakim, outre la SNCF, d'autres secteurs seront touchés demain par des mouvements de grève.
Oui, à commencer par Air France, où l'intersyndicale appelle demain à une nouvelle journée de grève, la quatrième depuis la fin février. Les syndicats d'hôtesses et de stewards, de pilotes ou encore des personnels au sol demandent une hausse générale des salaires de 6%, des salaires gelés depuis 2012. Pour l'instant, la direction ne propose qu'une hausse de 1%. Quant aux éboueurs, aussi bien ceux du public que du privé, ils entament à partir de demain une grève illimitée à l'appel de la CGT Transport. La CGT revendique la création d'un service national des déchets ainsi qu'une reconnaissance de la pénibilité. Le mouvement devrait toucher Paris et sa région, mais aussi Marseille, Montpellier et les régions nord et est de la France. Autre secteur en grève, celui de l'énergie. Les électriciens et les gaziers appellent à des journées de protestation pendant 3 mois, ce qui devrait se traduire par des baisses de production dans les centrales, par des coupures ciblées dans certaines grandes entreprises pour pénaliser le secteur industriel, par le passage en tarifs heures creuses dans certaines zones géographiques. Enfin, 18 organisations représentatives de la jeunesse, comme la FIDEL, l'UNEL, l'UNEF ou encore les jeunes écologistes, appellent à rejoindre la mobilisation avec des blocages à prévoir dès demain dans les universités.
Hakim Kasmi, merci. Alors, cette grève à la SNCF constitue le deuxième défi social majeur pour Emmanuel Macron. Le premier, la mobilisation contre la réforme du Code du travail, avait tourné à l'avantage du chef de l'État en septembre dernier. En 1995, Alain Juppé avait dû reculer devant la mobilisation des cheminots. En sera-t-il de même avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe? Rien n'est moins sûr pour le politologue Jérôme Sainte-Marie, président fondateur de l'Institut d'opinion Pauline Vox.
Je pense que pas plus qu'hier, les Français ne s'intéressent réellement au statut des cheminots. C'est plutôt que ce genre de mouvement, ça peut fonctionner comme une métaphore pour une modification plus générale de l'ordre social. En l'occurrence, actuellement, une réduction drastique des services publics. Si effectivement le lien se fait avec cette conception plus politique. Au fond des choses, il peut y avoir un mouvement d'opinion. D'autant plus que se produisent actuellement, et ça c'est original par rapport à 1995, des mouvements dans le secteur privé, je pense notamment à la grève chez Carrefour.
Est-ce qu'il peut, à votre avis, y avoir une coagulation avec certains autres mouvements ? Vous parliez de Carrefour à l'instant, mais aussi on voit les étudiants aussi qui se mobilisent dans les universités.
Il existe face au gouvernement un reproche lancinant, celui que les réformes, même si elles sont jugées parfois nécessaires, aient un caractère d'injustice sociale. Ça, c'est quelque chose qui apparaît très majoritaire dans les sondages. Il y a par ailleurs une insatisfaction très profonde sur le pouvoir d'achat, tant et si bien qu'on arrive à un mécontentement diffus, assez général, qui n'a peut-être pas les moyens syndicaux et politiques pour cependant pour l'emporter. Il s'agit essentiellement des communistes et de la France insoumise. Le Parti socialiste est lui-même très divisé. Donc on a effectivement peu de ressources politiques. On a également un front syndical qui apparaît fragilisé globalement et très émietté. Si la focalisation se fait contre la CGT, par exemple, ça peut paradoxalement profiter à Emmanuel Macron, qui deviendra un peu le héros des électeurs de droite qui aspirent à ce que les reins des syndicats contestataires soient rapidement apaisés.
Jérôme Sainte-Marie, président de l'Institut Polling Vox, répondait à Stéphane Robert. La France et la principauté d'Andorre ont choisi de lutter ensemble contre le trafic de cigarettes. Depuis hier, les deux pays effectuent des patrouilles communes pour traquer ceux qui achètent à Andorre des dizaines de cartouches pour les revendre au noir sur le sol français. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir.
Aujourd'hui, le paquet de cigarettes blondes vaut 3 euros moins cher en Andorre qu'en France.
Alors on imagine, Stanislas, vu les économies, que les fumeurs ramènent plus que les 300 cigarettes qu'ils ont le droit légalement d'acheter à Andorre. Question. Qui alimente ce marché transfrontalier illégal ? Eh bien, ce sont essentiellement les grands fabricants de cigarettes qui ont pignon sur rue. Philippe Juvin est eurodéputé Les Républicains. Il rappelle que moins de 80 000 habitants vivent dans la principauté.
En Andorre, alors que la population doit se satisfaire de 100 tonnes de cigarettes, eh bien Andorre en vend 800. Et bien entendu, les distributeurs officiels de tabac en Andorre reçoivent bien des cigarettes des fabricants. Donc les fabricants organisent eux-mêmes le trafic parallèle.
Alors autrefois, avant l'an 2000, les choses étaient simples. Les grands fabricants envoyaient leurs containers par bateau vers le port d'Anvers, raconte Luc Josens, qui travaille pour les Ligues européennes contre le cancer à Bruxelles.
À certains moments, il y avait 70 milliards de cigarettes qui venaient des États-Unis. Ils étaient en transit, ils ne payaient pas les taxes en Belgique parce que ce n'était pas destiné au marché belge. Ils étaient exportés en bateau vers l'Afrique et le long de la côte en Espagne, on transportait illégalement ces cigarettes. Les autres cigarettes passaient par des zones duty-free en Suisse, puis en Monténégro, et c'est comme ça que il y avait le marché illégal organisé par le cigarettier il y a 20 ans.
Alors la Commission européenne a lancé à l'époque des procès, les firmes ont eu peur, elles ont négocié de verser plus de 2,5 milliards d'euros à l'Europe en échange de l'abandon des poursuites et en promettant de collaborer dans la lutte contre le trafic. Mais apparemment le marché noir n'a pas régressé, affirme Emmanuel Béguineau du Comité national de lutte contre le tabagisme.
Ils ont été évalués comme étant extrêmement préjudiciables par rapport à la santé publique, ne serait-ce que par l'opacité qu'ils représentaient, et puis le fait que les fabricants de tabac, ça leur permet d'avoir accès directement aux responsables politiques et d'être autour de la table dans la prise des décisions.
Alors aujourd'hui, ces accords sont sur la sellette. Celui avec Philippe Maurice n'a pas été renouvelé à la demande du Parlement européen. Et désormais, la bataille se joue autour de la traçabilité du tabac. Et le lobby des industriels fait tout pour garder la main sur ce dispositif qui est en train d'être adopté.
Tara Schlegel, merci. Et justement, la traçabilité du tabac, ce sera l'objet de votre choix de la rédaction. Écoutez demain matin sur France Culture à 7h35. Au Proche-Orient, la tension a baissé d'un cran aujourd'hui à la frontière entre Gaza et Israël. Les manifestations sporadiques n'ont pas débouché sur des affrontements aussi violents que la semaine dernière. Vendredi, l'armée israélienne avait ouvert le feu sur les manifestants palestiniens, tuant 17 d'entre eux. Le Hamas, qui tient la bande de Gaza, dénonce un crime commis contre des militants pacifistes. Israël répond que la plupart de ces militants étaient en fait des terroristes du Hamas. Et Étienne Monin s'est rendu sur place aujourd'hui.
À côté des champs des agriculteurs de Gaza qui retournent encore la terre avec leurs chevaux, les deux camps se font face, mais les tentes sont quasiment vides. Le coordinateur Rafik Aboukalka parle posément du droit des réfugiés et de la responsabilité du président américain. L'intensité a baissé, mais un nouveau type d'action est né, parrainé par le Hamas, pour sortir de l'impasse des armes, explique Maha Charouane, venue soutenir le mouvement.
Depuis longtemps, on a utilisé la résistance militaire, mais avec ce qui se passe autour de nous, je crois que les manifestations pacifiques, c'est le meilleur moyen pour faire passer notre message au monde et pour se faire entendre.
Les violences de vendredi n'ont pas déclenché de cycle de représailles. Le Hamas et les groupes armés n'ont pas lancé de roquettes. C'est un mouvement à chapitre dont le prochain rendez-vous est fixé vendredi, avec comme arrière-plan une jeunesse qui meurt à petit feu d'une façon ou d'une autre, dit l'étudiant Ahmed Ziatal.
Nous, on brûle de l'intérieur, parce qu'en face, du côté israélien, c'est notre terre et on ne peut rien faire. Nos gars meurent chaque jour, tués de sang-froid. Ils croient que nos vies ne comptent pas, mais nos vies, c'est tout ce qu'on a.
Et avec cette manifestation, le Hamas a réalisé une mue spectaculaire. Il est maintenant à la tête d'un mouvement qui se veut populaire et pacifique.
Étienne Monin, correspondant de Radio France en Israël et dans les territoires palestiniens. Israël qui renonce à expulser des milliers de migrants africains vers leur pays d'origine. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord avec l'ONU. 16 250 migrants africains quitteront Israël, mais pour rejoindre des pays développés, selon le terme de Netanyahou, en l'occurrence le Canada, l'Allemagne et l'Italie. Les migrants africains concernés sont essentiellement soudanais et érythréens. C'était un symbole majeur de la lutte contre l'apartheid, pour reprendre les termes du prix Nobel Desmond Tutu. Winnie Mandela est morte aujourd'hui à Johannesburg des suites d'une longue maladie à l'âge de 81 ans. L'ex-épouse de Nelson Mandela était une icône pour des millions de Sud-Africains. C'était aussi une figure controversée en raison de ses frasques et de ses appels à la violence. Noé Ochebaudin nous appelle de Johannesburg.
Les Sud-Africains avaient l'habitude de l'appeler Mama Mandela, ou mère de la nation, tant Winnie Madikizela Mandela a pesé sur la lutte contre l'apartheid. Elle combattait une longue maladie, selon son porte-parole, ce qui l'a amenée à séjourner plusieurs fois à l'hôpital ces derniers temps. Pourtant, elle s'affichait tout sourire il y a encore 2 semaines de cela, au bras du nouveau président Cyril Ramaphosa, pour faire renouveler sa carte d'électrice. Ramaphosa, qu'elle avait d'ailleurs supporté dans sa course pour diriger l'ANC en décembre, car même si la deuxième femme de Nelson Mandela a divorcé du prix Nobel de la paix en 1996, elle restait une figure forte de la politique sud-africaine. La vie de Winnie Mandela comptait et elle avait ses favoris, comme Julius Malema, le président du parti radical de gauche, IFF. Mais c'est bien sous l'apartheid que Mama Mandela est devenue une vraie icône. Combattant le régime raciste, elle s'est plusieurs fois retrouvée derrière les barreaux. Sa réputation est cependant devenue plus sulfureuse depuis 1994, avec des rumeurs d'infidélité, puis accusée successivement de corruption et même de torture. Winnie Mandela était surtout une vigie dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, capable d'être très critique contre une ANC qui a aujourd'hui trahi son combat, selon ses mots.
Noé Ochebaudin, correspondant en Afrique du Sud. Malala Yousafzai est rentrée aujourd'hui en Angleterre après une visite de 4 jours au Pakistan. C'est la première fois que la jeune prix Nobel de la paix revenait dans son pays natal depuis que les talibans avaient tenté de l'abattre en octobre 2012. Grièvement blessée, Malala avait fui le Pakistan avant d'être sauvée par des médecins britanniques. Aujourd'hui encore, sa personnalité divise la société pakistanaise, comme nous l'explique Solène Fioriti à Islamabad.
Après plus de 5 ans d'exil, le séjour de Malala au Pakistan n'a duré que 4 petits jours. Placée sous haute protection, la jeune femme de 20 ans a eu droit à très peu de déplacements, à l'exception d'un aller-retour de 2 heures dans la vallée du Swat, la terre de son enfance. Le visage souriant, Malala est arrivée dans la ville de Mingora en hélicoptère depuis Islamabad. Elle a confié « J'ai quitté le Swat les yeux fermés. Ils sont ouverts quand j'y reviens. Mon rêve est accompli. » L'image est forte car Mingora est la ville où les talibans avaient arrêté son bus scolaire avant de lui loger une balle dans la tête. Ce retour est donc une victoire symbolique pour le gouvernement, car ramener Malala sur les lieux de son assassinat manqué prouve que la zone est pacifiée. C'est aussi un pied de nez aux États-Unis qui ont récemment mis en doute la bonne volonté de l'État pakistanais dans la lutte antiterroriste. À Islamabad, Malala a plusieurs fois répété qu'elle comptait investir dans l'éducation. Elle a d'ailleurs confié qu'elle reviendrait vivre ici après la fin de ses études. Des projets qui n'ont pas échappé à la presse locale qui se demande quel rôle Malala compte jouer à l'avenir. L'icône des droits des femmes est une figure contrôlée controversée ici. Au sein même de la classe moyenne éduquée, beaucoup questionnent ses réelles motivations et l'accusent d'être un agent de l'étranger payé pour ternir l'image du pays. Le tweet « Je ne suis pas Malala » continue de faire fureur au Pakistan.
Solène Fioriti, correspondante au Pakistan. Peut-on encore parler d'élections avec de tels résultats ? En Égypte, le président sortant Abdel Fattah el-Sissi a été officiellement réélu avec 97,08% des suffrages. Son seul adversaire, Moussa Mostafa Moussa, recueille les miettes restantes, 2,92%. Et encore, cet illustre inconnu est en réalité un partisan affiché du chef de l'État. Abdel Fattah el-Sissi est de fait arrivé au pouvoir en 2013 lorsque l'armée égyptienne qu'il dirigeait a renversé le président islamiste Mohamed Morsi. Le dossier du jour nous emmène en Islande, un pays volcanique qui s'est trouvé une nouvelle spécialité, la création de bitcoin et autres crypto-monnaies. Pour créer ces monnaies virtuelles, il faut des milliers d'ordinateurs regroupés dans des endroits dédiés, appelés des fermes. Et ceux qui font tourner les machines à coups d'algorithmes sont des mineurs. L'Islande, avec son climat froid et son énergie bon marché, réunit toutes les conditions pour fabriquer du bitcoin. Jeremy Richard s'est rendu dans l'une des plus grandes fermes de crypto-monnaies au monde, au cœur des champs de lave islandais.
À quelques dizaines de kilomètres de la capitale Reykjavik, un hangar en tôle argentée d'apparence anodine. Et à l'intérieur, un vacarme assourdissant. La cause, des dizaines de milliers de stations de minage. Philippe Salter est chef des opérations chez Genesis Mining, l'une des plus grandes sociétés de minage au monde.
Nous avons donc ici un certain nombre de cartes graphiques, avec une grosse puissance de calcul. Les machines sont construites de telle sorte qu'elles sont optimisées pour le minage de crypto-monnaies. Et c'est pour ça que le matériel est un peu différent des configurations conventionnelles.
Une station de minage, c'est une sorte d'unité centrale dotée du strict minimum en termes d'informatique. Une carte mère, une mémoire RAM, un disque dur, un processeur et 6 cartes graphiques. Le tout alimenté par une batterie de câbles et une clé USB pour exécuter le logiciel de calcul qui crée la monnaie virtuelle. Cette technologie s'appelle la chaîne de blocs et Philippe Salter explique succinctement son procédé.
L'idée de la blockchain, qui est une chaîne de blocs, est que nous essayons toujours de trouver le bloc le plus récent à placer au sommet de la chaîne, afin de la construire bloc par bloc. Ce processus s'appelle le minage. Les gens envoient des transactions en permanence les uns aux autres sur Internet et le mineur confirme que ces transactions se déroulent correctement. Une fois validées, elles sont ainsi regroupées en blocs grâce à un algorithme dans la chaîne de blocs.
Ce difficile travail d'assemblage est primordial au fonctionnement du Bitcoin et est récompensé par le système lui-même qui rémunère le mineur. Actuellement, 12 bitcoins et demi sont produits toutes les 10 minutes dans le monde. Sa valeur unitaire est d'un peu plus de 6 000 euros contre 16 000 lors de son pic mi-décembre. Et Genesis Mining en a fait une affaire. La société loue de la puissance de calcul à des clients. Elle en compte plus d'un million qui font le choix de ne pas miner avec leur ordinateur personnel. Car c'est extrêmement énergivore. Les stations de minage tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ont besoin d'être refroidies pour éviter toute surchauffe. L'Islande est donc le lieu idéal. Johan Snorri Sigurbjörnsson est responsable du développement pour la compagnie d'énergie islandaise HS Orka.
Je ne dirais pas que les prix de l'électricité en Islande sont les moins chers, mais nous offrons des tarifs hautement compétitifs et prévisibles sur le long terme, même si beaucoup de ces compagnies ne pensent pas sur 20 ou 40 ans, car les changements sont trop rapides dans cet environnement. En tout cas, l'indicateur d'efficacité énergétique est très bon ici du fait du refroidissement naturel.
Le kilowattheure coûte 6 centimes d'euros hors taxe en Islande, en moyenne deux fois moins cher que dans l'Union européenne. Et en effet, la température extérieure flirte avec les 5 degrés Celsius sur un an. Autant d'atouts qui conduisent les mineurs à se presser vers l'île de glace et de feu, Johan Snorri Sigurbjörnsson.
Nous ne pourrons pas répondre à toutes ces demandes. Par contre, nous sommes dans la position confortable de pouvoir choisir avec qui nous allons faire affaire. C'est une très bonne chose, aussi bien pour l'Islande que pour nous, en tant que compagnie d'énergie.
HS Orka se frotte les mains. Selon ses estimations, les 3 plus grosses compagnies propriétaires de centres de données et fermes de crypto-monnaies devraient en effet consommer d'ici la fin de l'année plus d'électricité que les quelques 350 000 habitants du pays.
Le reportage en Islande de Jérémy Richard. Retour dans l'Hexagone avec la disparition d'une figure de la montagne française. Le médecin urgentiste Emmanuel Cauchy est mort aujourd'hui dans les Alpes, emporté par une avalanche dans le massif des Aiguilles Rouges au-dessus de Chamonix. Lors d'une randonnée en ski hors piste, Emmanuel Cauchy était aussi guide de haute montagne. Il avait 58 ans. Le temps demain sera variable en général avec des ondées orageuses du sud-ouest au nord. Les températures sont en hausse de 7 à 14 degrés pour les minimales du nord au Pays Basque, de 13 à 20 degrés pour les maximales du nord au sud, jusqu'à 21 degrés en Aquitaine. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.